Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact at lafabriqueaudio.com.
La Fabrique Audio présente
Et pourquoi pas ? À écouter sur toutes les plateformes de podcast www.lafabriqueaudio.com.
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Quand je suis tombée enceinte, t'étais même pas le père. Pourtant t'étais là.
On peut le faire en écoutant le CD du Cri des Baleines.
Comment t'as fait pour venir si vite ?
Je ne fais pas l'amour, je baise.
Peu importe si c'est le mauvais choix ou un choix précipité.
Je t'aime.
Ça valait le coup.
C'est magnifique.
Je t'aime.
Ne me touche pas.
Je suis très heureux pour toi.
Est-ce que ça te dérange si on appelle ma mère ?
Et peut-être que si on s'est séparés autant de fois, c'était seulement parce qu'on en avait besoin.
Vraiment, désolée.
J'en suis...
Tu t'en vas.
Je t'en prie, fais pas ça.
Bonjour à toutes et tous, merci de nous retrouver, le podcast Et Pourquoi Pas, effectivement, c'est le podcast des copains, c'est la vie, c'est la vraie, on est là, on est ravis d'être là, en direct, enfin en direct, non pas en direct pour vous, mais en direct pour nous, d'un gîte, on est à Liman. Salut Angèle.
Bonjour Florent.
Liman, tu peux nous rappeler où c'est, s'il te plaît?
C'est dans les Alpes de Haute-Provence.
Effectivement, on n'est pas loin de Fort-Calquier.
Exactement, juste à côté.
On se croirait à l'office de tourisme.
C'est ce que j'allais dire. Alors, à Fort-Calquier, vous pouvez...
Il y a des sites, des monuments à voir dans le coin ?
Je sais pas trop.
Je sais pas, parce qu'on n'est pas sorti de là.
C'est ça. On est venu un peu en week-end repos, du coup, j'avoue qu'on n'a pas foutu grand-chose.
On n'est pas loin de Valensole.
Ah oui, on n'est pas loin de Valensole.
Merci, j'avais entendu ce qu'elle avait dit précédemment.
Ah oui, pardon.
Salut Marine.
Salut.
Comment ça va?
Effectivement, ça va. Nous avons tous des micros. Désolée.
On serait pas loin de Valensole par hasard?
Écoute, il me semble. Info insolite, on n'est pas loin de Valensole.
Mais tu savais qu'on
est-ce
était.
Est-ce que tu peux le dire à Angèle, s'il te plaît, que nous sommes pas loin de Valensole?
Attends, bouge pas. Angèle.
Oui.
On me dit qu'on n'est pas loin de Valensole.
Ah oui, je pense que oui. Parce que Marine vient de me dire qu'on n'était pas loin de Valensole.
Ah bah écoute, Marine me l'a dit aussi. Je sais pas à quel moment.
Super. Ouais,
on s'est, ça a dû se croiser l'info. L'info a dû se croiser. Nico, bonjour.
Bonjour.
Nico, il est comme ça.
Non mais. Est-ce que quelqu'un peut me dire où est-ce qu'on est?
Pas loin de Valensole.
Loin de
d'accord.
Valensole.
Ah voilà.
J'avais pas compris.
Je pense que je vais vous laisser. Non, il avait pas entendu
en fait.
Bon les amis, on est bien ici évidemment. On espère que vous aussi vous l'êtes bien. Peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous êtes en week-end. Alors vous nous écoutez. Peut-être que vous êtes au travail. Bon courage à vous si vous êtes au taf. Si vous souhaitez participer à ce podcast, n'hésitez pas. On vous attend évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Et puis vous pouvez nous envoyer des messages. Il y a des mails. contact@lafabriqueaudio.com. La fabrique avec un K. Et puis également la possibilité de nous envoyer des messages, des audios même sur Instagram, pourquoi pas, ou sur les autres plateformes de podcast. Bon, aujourd'hui, nous avons plein d'infos. Il y a Nico, il a chopé une info, je vous dis que ça.
Oui, il faut s'échauffer. Faut faire l'échauffement, ouais. Mettre son petit Marcel, son petit jogging.
Ouais.
On va parler des Jeux Olympiques.
On va faire du sport avec toi.
C'est ça.
Très bien, très bien. Et Marine, toi, tu vas nous glisser une petite info également qui concerne le risotto, c'est ça ?
Oui, totalement.
Je sais pas, c'est une surprise. Elle m'a dit, je vais te parler de risotto aujourd'hui.
Sexe, amour et amitié.
This is...
Et pourquoi pas ?
J'ai le quiz des positions sexuelles pour vous, les amis. Ouais. On va voir si vous êtes forte et fort aux positions. Est-ce que vous savez ce que c'est le speed bump ?
Oula, ça doit être un truc rapide déjà. Vu mon niveau d'anglais,
comme j'ai pas. T'as les bases.
Speed bump, bah c'est un petit coup rapide.
Petit coup rapide.
En traduction.
Nico,
je dirais la même chose.
Alors en fait,
il triche, il regarde sur son téléphone.
Et toi, on est d'accord. Ah non, pas de triche, hein, s'il vous plaît. Sinon, c'est la disqualification totale. Marine, toi, c'est un petit coup rapide pour toi aussi.
Oui, oui.
Alors en fait, le speed bump, c'est la position magique pour simuler le point G. Faut le savoir.
Ouais. Ah, et alors donc
Eh bien, le speed bump ou ralentisseur en français, c'est comme ça qu'on l'appelle en français, désigne en fait le dos d'âne, mais aussi une technique efficace pour atteindre l'orgasme féminin en faisant en fait pression sur la zone pelvienne, position qui devrait logiquement combler beaucoup de couples hétéros, mais aussi lesbiens qui seraient équipés d'un god ceinture. Alors en fait, la femme doit simplement se coucher sur le ventre. Elle doit placer un coussin au niveau de ses hanches afin de surélever légèrement son bassin. Vous voyez bien, c'est facile à voir. Et en fait, il y a un angle parfait qui est créé ainsi pour stimuler le point G. Et donc, il suffit au partenaire de trouver le tempo et l'angle de pénétration qui convient. Nico, il me regarde, c'est genre avec des grands yeux.
C'est de la géométrie un peu là.
Oui, il faut être à 35 degrés.
D'accord.
Sort en rapporteur.
Ouais. 45% d'après vous, c'est la part d'hommes dont la levrette est... De vas-y là.
Bah,
La position préférée.
Ouais, ouais. Il paraît que les mecs en général.
Ils sont un peu classiques, ouais, les classiques.
Elle est suivie de quelle autre position d'après vous?
Toujours pour les hommes?
Toujours pour les hommes.
L'Amazon?
Missionnaire.
Pas l'Amazon, c'est la missionnaire à 22%. Ouais. Ouais. Et la troisième qui est sur le podium, la cuillère. Bravo, bien joué. Tu nous rappelles ce qu'est la cuillère, Marine?
Allez, bon courage.
Tu nous montres ce que...
Selon le théorème de Pythagore.
C'est ça, comme hier à la pétanque alors.
47%, ce sont les personnes qui disent qu'elles osent et qu'elles régulièrement se...
masturbent.
Oui, mais il y a un petit truc
avec,
en plus.
Avec un sextoy?
Non.
Avec un légume. Leur partenaire.
Alors, pas avec leur partenaire,
devant
leur partenaire. 47% des personnes interrogées se disent se caresser devant leur partenaire. Ça,
c'est un gros chiffre.
Ça vous paraît gros?
Wow.
Ouais, j'avoue.
Ouais, j'avoue, ça fait un peu gros. Ouais.
Ça fait quasiment 1 sur 2.
Ouais.
C'est pas mal. C'est vraiment fort en moi.
Dans les tout premiers épisodes de ce podcast, il y avait Thomas qu'on salue, qui était en Angleterre, le Thomas. Mm. Et lui, il nous disait que ça lui arrivait régulièrement, ou ça lui était arrivé également avec des personnes dans son lit, de se masturber pendant que l'autre il dort. C'est cool quand même.
Ah, ça, c'est bizarre par contre.
Tu t'en rappelles pas?
Non,
Angèle,
ça me dit rien, ça.
Faudra qu'on reprenne.
Tu ressors des dossiers qui, si ça se trouve, n'existent pas.
Ah, si, c'est dans le premier ou deuxième podcast. Tiens, si t'arrives à le retrouver,
archive,
je suis
mais
preneur.
Genre, c'est la personne qui est dans le lit qui l'excite et il se masturbe en la regardant, ou il se masturbe en regardant autre chose?
Je sais pas.
Parce que c'est très, enfin, c'est très.
Dans tous les cas, c'est bizarre.
C'est flippant de, tu vois, t'es en train de dormir et tu sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de se masturber juste à côté de toi.
Ça te réveille, tu sais, parce que t'as le lit qui bouge d'un coup. C'est quoi? C'est un tremblement de terre? Non, c'est.
Mais dis-moi, Florent, t'as déjà dormi avec Thomas?
Ouais, putain, c'est vrai en plus.
Ah ben voilà.
Ça bougeait, j'y pense.
C'était peut-être avec toi.
Et on était, pendant 10 jours, on était 3 dans le même lit quand même.
Ah bah écoute.
Incroyable. Alors, est-ce que vous avez suivi cette affaire? Il y a le tribunal de Rennes qui, il y a quelques semaines, a débouté l'entreprise belge Moulinsart. Vous savez ce que c'est cette entreprise belge de Moulinsart?
Oui, c'est le château.
Ouais,
Alors, c'est le château, mais c'est surtout... Enfin, c'est le château. Le château de Moulinsart, ok, mais c'est surtout les...
Attends.
Les droits, ceux qui gèrent les droits, effectivement, de tout ce qui est rattaché à Tintin. C'est la veuve d'Hergé, en fait, qui gère ça. Société qui réclamait des dédommagements à un peintre breton qui est auteur de toiles parodiques. Et en fait, on reconnaissait sur ces toiles Tintin qui était attiré par des jeunes femmes plus ou moins provocantes. Voilà, il faisait des petites
parodies. Alors que tout le monde sait que Tintin, il préfère les garçons.
Justement, l'info va vers ça juste après. En tout cas, la justice a estimé, c'est une bonne nouvelle pour l'artiste, que l'intention était humoristique et donc que l'artiste n'avait pas abusé de sa liberté d'expression. Donc, présenter le jeune héros dans des situations où le créateur ne l'avait jamais mis, bah, c'était de la fiction et c'était pas gênant et c'était pas anormal non plus pour Tintin, qui est comme un adolescent, de se retrouver avec des femmes qui étaient assez jeunes. Donc, voilà, il pourrait commencer à s'intéresser aux filles. Il est assez grand pour savoir conduire. Donc, c'est ce qui a été dit par la justice. Ça vous paraît logique, Angèle?
Oui, c'est surtout faire des histoires pour pas grand-chose, quoi.
Ouais. Mais alors, j'ai l'impression que la maison Moulinsart, elle essaye à tout prix, il me semble, j'espère qu'il n'y aura pas de procès avec ça, hein, mais à tout prix, ils essayent de préserver les droits de Tintin et éventuellement de demander de réclamer des droits aux uns et aux autres, parce qu'il y a eu un festival de la bande dessinée très connu, évidemment à Bruxelles, capitale de la BD, qui voulait utiliser la figure de Tintin pour représenter une édition de leur festival. Et ça a été annulé par la maison de Moulinsart.
Ils veulent des sous, quoi.
Ouais,
ils ont besoin de...
Ouais.
Ok.
Ça vous paraît, Nico? Fan de Tintin, Nico?
Oui, je pense qu'on respecte pas assez Tintin et qu'il faut, il faut protéger tout ce patrimoine quand même.
C'est que n'empêche, c'est un truc qui a souvent été dit. Il y a beaucoup de misogynie qui a été vue dans les œuvres d'Hergé, parce
entre
que
autres,
un les personnages
racisme,
et le racisme
aussi.
Mais côté misogynie, les personnages féminins sont rares et quand ils existent, ils sont peu à leur avantage. Par exemple, la Castafiore qui est hystérique et qui est célibataire évidemment. Alors Tintin, Haddock, Tournesol et les Dupont, ils sont célibes également. En fait, tout le monde est célibataire, hein, chez Tintin. C'est voilà. La dévouée femme de chambre Irma, je ne sais pas si vous en souvenez.
Ah,
Elle est vieille fille, donc célibataire. Madame Wang, vous vous en souvenez de Madame Wang?
Mais moi, je suis tintintophobe.
C'est vrai?
Ouais.
T'aimes pas du tout?
Ah, pas du tout.
Bon, il y a le Lotus bleu avec Madame Wang. Il faudra que tu le lises, hein, même si t'aimes pas. C'est une mère éplorée et impuissante, voilà, qui ne peut pas aller à la rencontre de la, des hommes. Et puis, nous avons également, la Peggy du général Alcazar dans les Picaros, qui est une mégère, donc, voyez.
Ouais, mais ils sont pas là pour ça. C'est la place que pour l'aventure. L'aventure dans le sens premier du terme, quoi.
Ouais. Ah oui. Ouais, mais à la fois, ils pourraient faire. Enfin, je sais pas, ils sont pas obligés de représenter les femmes comme étant hystériques, comme étant vieilles filles.
Oui, mais enfin, je parlais pour le côté célibataire de tous les personnages.
Ouais.
Voilà, on n'est pas là pour vivre les histoires d'amour, forcément. Mais après, il y a des histoires d'amitié, surtout. Mmh. Et puis, mais après, on est surtout là pour mener des enquêtes et voilà.
Alors, il s'est expliqué quand même, Hergé, à l'époque, hein, parce qu'on lui avait posé la question.
Très bien.
Et il avait dit, bah oui, l'univers de Tintin, c'est un univers quasiment exclusivement masculin. C'est parce qu'il y a de l'humour et parce qu'il y a de la bagarre. Donc, les femmes, généralement, sont moins batailleuses, disait-il, moins caricaturables et moins risibles que les hommes. Voilà ce qu'il avait dit.
Ouais. Bah, c'était à l'époque.
Ouais, parce que donc, les filles peuvent pas se battre et peuvent pas avoir de l'humour.
À l'époque, moins.
Non, mais en fait, ils remettent tout en cause parce que c'est comme le Blanche-Neige là, de Disney, que le prince qui la réveille, ça serait une agression sexuelle. Donc, en fait,
oui, dans ce cas-là, tu remets en cause tous les comptes.
Elle était dans le coma quand même, la meuf.
Tous les ouais, comptes. Ouais, mais il la réveille. Attends,
le mec, il est chelou quand même. Il va embrasser une meuf, il la connaît
c'est
pas.
Ça.
Et attends, c'est pas Covid ça. Hein.
Non, déjà.
Toi, Angèle, tu lisais Tintin? Ou tu lis Tintin?
Je lisais Tintin quelques années, j'étais chez mes parents et j'avais retrouvé du coup les Tintins, je les avais relus et j'avais fait ah ouais, ça a mal vieilli quand même. Mm-hmm. Alors que Astérix, non, moi ça me fait toujours aussi rire, mais Tintin, du coup, avec tous les trucs, la misogynie, le racisme, vu avec des yeux d'adulte, ça a mal vieilli.
Et des yeux de
2021
aussi.
Oui.
C'est vrai que bon, il l'a fait à une certaine époque aussi. Il disait toujours sur cet élan de misogynie, tout ça, il disait c'est un personnage public, Tintin, donc il n'a pas besoin d'avoir une vie privée pour avoir de la consistance, un petit peu ce que tu disais toi, Nico.
Merci.
Il a pas de famille, mais bon, on n'a pas besoin de s'intéresser à sa famille. Il ne fait guère son métier de reporter d'ailleurs, hein, et il n'a pas de dulciné puisqu'il passe son temps à voyager et tout ça. Et il est très bien comme ça. Voilà ce que répondait Hergé à l'époque. Bon, ça m'a donné envie de relire Tintin, ça, parce que les souvenirs sont très lointains.
Oui, c'est
hyper lointain. C'est un petit peu une Madeleine de Proust pour toi, Nico?
Ah oui, c'est sûr. Parce que moi, quand je partais pas en vacances, j'allais à la médiathèque juste à côté de chez moi, parce qu'il y avait que ça à faire. Et pour passer les après-midi et les journées, je lisais tout. Et du coup, je passais mes vacances d'été avec Kid Paddle, avec Titeuf, Ricochet, Astérix, Lucky Luke, Tintin, voilà.
Mais alors, je m'en rappelle plus, mais Lucky Luke, lui, il a des conquêtes amoureuses? Parce qu'à un moment donné, il me semble que c'est avec...
Un peu,
il doit avoir une aventure.
C'est jamais consommé,
voilà.
Quoi.
Mais c'est jamais, ouais,
c'est hors champ.
Parce qu'avec Calamity Jane, il y a un truc à un moment donné, non? Il me semble.
Ouais, moi aussi. Hein.
Avec Merdalton à un moment donné.
Avec Madalton.
Astérix, je crois que souvent il tombe amoureux de.
Il a été amoureux, c'est surtout Obélix, ouais, qui était
c'est
amoureux
Obélix, de Falbala.
De Falbala, carrément.
Mais je crois qu'elle. Oui,
qui est la femme du grand chef.
Non,
ah non,
c'est Bonne Mine, la femme du grand chef.
Ouais, mais Falbala, c'est la femme du vieux.
C'est la jeune blonde, super belle.
D'accord.
Oui.
C'est pas celle qui est avec le petit vieux?
Non.
Ok, comment elle s'appelle celle qui avait le
Bonne Mine.
Bonne Mine,
c'est la chef de
Raccourcix.
Raccourcix. Falbala, moi je me demande. Enfin bon, bref, si vous me l'assurez, ok. Moi je crois que c'était celle qui était avec le petit vieux, joué par Sim dans le premier Astérix.
Ariel Dombal qui joue sa femme.
Ouf.
Ouais.
Ariel Dombal. Bon, allez, voilà pour ces infos.
Sexe, amour et amitié. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas?
Et pendant le jingle, il y a notre ami Nico qui est en train de vérifier.
C'est ça, lui, il a besoin de regarder.
Sur
de suite.
Wikipédia, Falbala.
On cherche qui exactement? La femme du chef du village?
Non, la femme du vieux.
La femme du vieux.
De Ashkanonix.
Voilà, exactement. Ashkanonix.
Ah, moi j'ai.
Alors Nico est en train de rechercher, il fait la recherche.
C'est madame Ashkanonix.
Ils sont
qui est d'ailleurs très charmante.
Bah oui, très charmante évidemment. Il y a des dessins comme ça qui vous ont un petit peu excitouillé quand vous étiez gamin?
Je suis sûre, Jessica Rabbit dans.
Ah bah oui, évidemment. Ah oui.
Dans Qui veut la peau de Roger Rabbit.
Moi, toutes les femmes dans les Spirou, les petits Spirou.
Ah Ah, c'est vrai qu'elles étaient pas mal.
Ouais. Ah oui, c'est le petit Spirou, il joue sur le côté un peu coquin, etc. Et c'est tout. Vrai, et vrai. En général, voilà, c'est des modèles sympas.
Vous les filles, il y a des filles ou des mecs qui vous auront des personnages qui vous ont excité.
Alors pas excité, non, mais Blueberry.
Ah oui, d'accord. Ah oui, aventurier, tout ça. Ouais. Moi, Lucky Luke, non,
non. Non, moi j'aimais beaucoup Blueberry.
Moi j'étais amoureuse d'Aladin.
Ah ouais, bah oui.
Ah
ouais.
Aladin, ah ouais, non.
Ah, Sally, oui, c'est bien lui.
Oui, en vrai. Et dans le film, du coup.
Ah oui, alors si on parle des dessins animés, moi c'était Olivier Tom, j'étais amoureuse de Tom.
Oui, non, mais.
Dans le film, c'est qui? C'est Kev Adams.
Mais ça va pas ou quoi? Non, le vrai film Aladin de Disney.
Ben oui, le
non, mais le modèle avait été pris sur le visage de Tom Cruise.
Ah bon? Oui. Je sais pas. Bon, si vous aussi, il y a des personnages comme ça qui vous ont marqué quand vous étiez enfant. Moi, c'était Bulma de Dragon Ball Z.
Ah, bah oui. Ouais.
Mmh. Et les cheveux bleus, je sais pas pourquoi. Moi, je cherche une dame aux cheveux bleus toute ma vie. Nico, avec toi, nous allons parler de quoi? J'ai déjà oublié ton intro, ton sommaire.
Des Jeux Olympiques.
Et allez, c'est parti, on fait du sport. Qu'est-ce qui se passe alors?
Ah, on y va maintenant de suite, là.
Bah, pas dans une demi-heure.
Putain, il était pas échauffé, là.
Je suis au bord du claquage. ben non, les Jeux Olympiques, ça va se passer cet été. Ouais. Fin juillet, début août à Tokyo. Et évidemment, pour accueillir tous les athlètes, tous les participants, à chaque fois, le CIO, donc le Comité International Olympique, organise des sortes de villages, de campus, où sont regroupés tous les athlètes et tous les staffs nationaux. Et évidemment, on s'y entraîne, on mange, on dort, mais on peut s'imaginer qu'il se passe des choses.
Des choses.
La nuit. Et c'est assez réputé, en fait, que la nuit, il y a la testostérone, la compétition, l'adrénaline, etc. Eh bien, il y a des échanges plus ou moins...
Coquins. Coquins malins.
Je vois pas où tu veux en venir.
Dans les chambres entre les athlètes, et c'est assez connu. Et par exemple, il faut savoir que aux Jeux Olympiques de Rio, il y a eu 450 000 préservatifs distribués sur tout le village olympique.
Et pour les joueurs.
Pour les athlètes.
Pour les athlètes.
Voilà, pour justement une histoire de prévention. Évidemment, cette année, Covid oblige, etc. On leur dit, bon, quand même, faites
attention.
C'est des
masques. Cette année, c'est plus des capotes, c'est des masques.
Voilà, c'est ça, du gel hydroalcoolique. Mais il y en a quand même 160 000 préservatifs qui ont été distribués donc par le CIO à tous les futurs champions et championnes toutes catégories qui pourront prolonger l'entraînement et le sport dans leur chambre.
Mais il paraît que faire du sexe, c'est bon pour le sport.
Eh bien, ils disent il faut quand même se préserver parce que justement trop d'efforts, ça empêche un peu la récupération et du coup ça peut perturber le programme qui est fait par le staff dans l'enjeu de la compétition à venir.
D'accord.
Après, dans le football, c'est aussi assez connu, où il y a des coachs, notamment Giroud, qui disaient « Ne faites rien avec vos femmes la veille d'un match, puisqu'il faut garder toute votre énergie. » Et voilà, évidemment, il n'était pas dans les chambres pour vérifier. Mais il y a des recommandations comme ça, où effectivement, après, il y en a qui disent... Il y a des joueurs, des athlètes qui disent que ça peut les aider justement à se détendre, à se concentrer, etc. Mm-hmm. Et notamment à l'Euro, c'est pareil. À l'Euro de foot, par exemple, on sait que les femmes de joueurs et les familles de joueurs sont autorisées à venir quelques jours ou quelques fois durant le mois de compétition, justement, pour pas les déconcentrer. Et, voilà, c'est juste un petit moment de détente, histoire de libérer un peu l'esprit, mais on reste quand même focus.
Mais moi, je croyais que ça envoyait un petit peu de la dopamine ou je sais pas quoi, qui permettait d'être d'être un petit peu mieux dans son instant sportif. Je croyais que c'était utilisé régulièrement par les sportifs et notamment les
coachs. En général, les coachs aiment pas trop
ça. Pas trop ça, d'accord.
Et d'ailleurs, l'organisation donc des Jeux Olympiques a fortement découragé les sauteries dans les chambres cette année et les invite donc à garder les préservatifs pour les utiliser plus tard.
Bon. Genre, ils vont le faire.
Est-ce que les JO, c'est un truc que vous suivez, Angèle?
Ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé des JO. Les JO, je regarde un peu l'athlétisme. Mais sinon, les JO d'hiver, peut-être plus que... Ouais, ouais.
Moi, je suis plus JO d'été. Surtout qu'en plus, il va y avoir des nouvelles
disciplines. Il y aura quoi? La pétanque,
La pétanque, la voile.
Le surf, le breakdance.
Ah ouais. Ah, le surf arrive enfin?
Ouais, apparemment. Okay. Donc, cool. C'est cool. C'est pourquoi, moi, c'est pas mal. Mm-hmm.
Breakdance aussi, ouais, c'est sympa ça. Ouais. Bon, ben très bien. Merci pour cette info, Nico.
Je vous en prie.
On peut le faire en écoutant le CD du Cri des Baleines.
Ça valait le coup.
Comment t'as fait pour venir si vite?
Je t'aime.
Et tiens, pourquoi pas. On parle de vulve dans Santé Magazine. Est-ce que vous lisez Santé Magazine?
Tu nous sors ça comme ça, ouais, après, ouais, la
comme ça, comme ça après la JO.
Sans transition.
Transition.
On parle fist fucking. Allez, c'est parti. Alors.
Non, mais non, la vulve, ça fait partie du corps humain. C'est normal qu'on en parle.
On n'était pas après, là, après.
Déjà, est-ce que vous connaissez bien la définition de la vulve? C'est ce qu'on voit de l'extérieur déjà, la vulve qui comprend le gland du clitoris sous le capuchon, la tige sur le capuchon, il y a les petites lèvres et il y a les grandes lèvres et puis il y a l'entrée du vagin qui est également nommée vestibule, il y a le frein et il y a le mont de Vénus. Ça c'est la partie bombée qui est en dessous du, en gros en dessous du nombril. Il y a Angèle qui est en train de se représenter tout le truc.
C'est quoi le truc de Vénus?
Le mont de Vénus, la partie qui est le plus en haut on va dire.
D'accord. Tu vois? Ah, j'aime bien.
Voilà, okay. Le monde, le nom. Et donc, du coup, ils ont fait tout un article sur la vulve qu'on vous invite évidemment à lire si ça vous intéresse, et dans lequel on apprend que la vulve manifeste souvent des contractions, et il peut y en avoir plusieurs successivement. D'après vous, combien?
8.
Quand en période de jouissance, dans le moment de la jouissance. 8.
Ça veut dire que c'est un chiffre de fou.
Pour Nico.
Je
Marine.
Dirais, aucune idée.
Je dirais plus. Hein.
Ouais, moi aussi.
25.
Non, t'as dit 8.
Pardon.
Moi, je dis 50.
50.
Non,
Angèle.
Moi, ouais, juste pris.
C'est ça.
Allez, 32.
32? Non, 3 à 10. Donc, c'était Nico
Allez
qui était bien. 3 à 10 contractions successives. C'est ce qui se passe.
Je connais bien les femmes.
Avec la vulve.
Mieux que nous.
Combien de secondes entre chaque contraction, d'après vous? C'est pas beaucoup. Je vous le dis de suite.
3 secondes.
C'est moins.
Une.
C'est quasiment ça. On est sur 0,8 secondes entre chacune de ces contractions.
Allez, je connais bien les filles.
Enfin, pardon de te couper, mais quand on a un orgasme, on n'a jamais pensé à chronométrer.
Oui. 1, 2, 3.
Voilà combien on avait de contractions.
Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont pensé aussi.
Bah oui. Mais...
Oui. 1, 2, 3.
Alors attends chérie, je compte mes contractions.
Pas, pas. Ils nous apprennent un truc vachement intéressant dans cet article. Ils nous disent qu'en fait le mot clitoris a été représenté correctement dans les manuels, la notion de clitoris, dans les manuels scolaires depuis quand d'après vous?
Depuis pas très longtemps.
Depuis pas très longtemps,
ouais. Depuis 69.
Non.
Ça je savais pas, mais ouais.
Mais non, mais même
combien
vraiment, c'est même pas il y a 10 ans quoi. Enfin,
allez un chiffre.
Quand même pas.
Non, c'est récent parce que quand tu vois qu'il y a personne qui s'est dessiné un clitoris,
c'est hyper récent.
Ouais.
Ah ouais, il en dessine plein, Nico, je vais te dire. Non, il n'est pas loin de la perfection.
Non, tout le monde s'est dessiné des
Le problème, c'est qu'il les dessine sur les bagnoles. Il faut que tu arrêtes ça, Nico, on l'a dit.
C'est hyper récent.
Non, je sens que c'est pas si récent. Je sais pas. En fait, j'essaie de lire dans les yeux de Flo, mais
tu vas pas lire grand chose. À part de la fatigue, tu vas.
Ouais.
Alors?
Bah, vas-y, dis-nous, c'est bon.
Non, mais Marine, moi j'ai besoin d'un chiffre. Toi, tu l'as dit, il n'y a vraiment pas longtemps.
Ouais, mais j'ai dit comme Angèle.
Ouais.
Vraiment,
moins de 10 ans.
Ouais.
C'est 2017, effectivement. Ouais. Avant cette date, voilà. Le clitoris était soit totalement absent, ce qui est hallucinant, soit représenté uniquement par son gland. Et selon d'ailleurs le Huffington Post, il y a seulement un éditeur sur 8 qui avait sauté le pas en 2017. Et les 7 gros éditeurs, les 7 autres, donc il y a Bordas, il y a Belin, il y a Didier, il y a Hachette, il y a Attier, eh bien, ils étaient un petit peu à la traîne et ils ont conservé d'ailleurs leur dessin classique dans les manuels pour la rentrée 2017-2018. Voilà.
Oui, ouais. Mais ça m'étonne pas parce que nous, on nous représentait les femmes que avec nos organes
extérieurs,
reproducteurs ou quoi, tu vois.
Et comme on en a pas.
L'utérus, etc. Mmh. En fait, on est là que pour ça.
C'est ça. On est là que pour se reproduire.
En fait, il y a un truc qui est étrange, c'est que le mot clitoris, il a connu vraiment une histoire tourmentée. C'est-à-dire qu'il a, il a disparu. Nico, il a peur. Tu crois quoi? Qu'il y a des serpents qui vont venir?
Non, mais faut dire, on est dans un gîte là,
ouais.
Et y a la terrasse en face. Il y avait un énorme lézard qui vient de passer.
Oh.
Je m'étais cru dans Jurassic Park. Voilà. Mais j'étais discret jusque là.
Non, faut dire qu'il y a les propriétaires du gîte qui tout à l'heure ont parlé d'un serpent. Quand même.
Oui,
alors
oui.
Là, on était tous un serpent. Il est où le serpent?
Ouais, voilà. Donc je suis voilà, vigilance.
Donc on revient sur le mot clitoris si vous voulez bien. Histoire tourmentée. Il y a d'ailleurs un superbe livre qui a été fait. Ça s'appelle La fabuleuse histoire du clitoris et qui nous dit que la première mention du clitoris c'est en 1559 sous la plume d'un anatomiste vénitien. Et en fait, jusqu'au début du XXe siècle, le clitoris c'était un organe connu. Mais ensuite, il y a eu des années où il a complètement disparu. Entre 1930 et 1960, le clitoris a disparu des pages des dictionnaires. Ouais. Il est revenu ensuite dans les années 60, et en fait sa redécouverte est récente, liée un petit peu à mai 68, libération sexuelle, revendication féministe, et donc en 1968, eh bien, nouvel âge d'or pour cet organe. C'est hallucinant, hein, de voir qu'effectivement il y a des choses qu'on connaît et qu'on va faire oublier à toute une partie de la société, quoi. Vous savez qu'il y a des gens qui sont en télétravail et qui sont en télétravail avec leur conjoint ou leur conjointe. Mmh. D'après vous, combien utilisent ce moment pour, de temps en temps, s'adonner à des petits moments sympas?
Ah, les petits 5 à 7 direct à la maison, 5 à 7, entre deux réunions?
Entre deux petits visio.
25%.
Ils auraient tort de se priver, hein.
25%.
33%.
33% pour Marine, 25% pour Nico,
ouais,
Angèle.
25%.
C'est 40%. Ah ouais, qui ont eu des, ouais, 41% ouais, même, qui ont eu des relations sexuelles. Et le truc que j'aime bien, c'est 42% ont eu un rendez-vous amoureux. C'est-à-dire que là, c'est autre chose quand même. Rendez-vous amoureux, tu dresses la table, tu sers une petite coupette. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Là, t'es dans un autre délire. T'es plus du tout au travail, quoi.
Pas forcément. Tu peux faire un rendez-vous amoureux via Skype ou Zoom ou en visio. Bon. Il y a beaucoup d'applis de rencontres qui ont proposé ça, d'ailleurs, depuis le premier confinement.
Ouais, mais du coup, t'es pas en train de bosser pendant ce temps.
Oui, mais t'es en rendez-vous. T'es en rendez-vous amoureux.
Par contre, j'aime bien, il y a un chiffre qui est rigolo. Près de la moitié des gens qui font du télétravail déclarent avoir bu une boisson alcoolisée. Bah, ouais, pour une fois que tu peux boire au boulot.
Ouais, c'est tentant. Tu crois que tu bois ta tasse de thé, mais dedans, c'est un bon verre de blanc.
Une bonne petite vodka à 10h du mat. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes toujours en télétravail? Non, toi, Angèle, t'es plus trop en télétravail?
Si, entre 1 et 2 jours par semaine.
Ok. C'est un truc que t'aimes bien ou
non,
pas trop?
Non, ouais. Non. Je préfère aller voir mes collègues.
Nico?
Moi, je suis totalement l'inverse. J'ai fait 1 an et demi de télétravail, enfin 1 an, et là, je vais y retourner du coup.
D'accord. La boule au ventre?
Non, pas du tout, parce que j'y suis.
Content.
Parce que j'y suis retourné quelques fois quand même depuis, voilà, pour faire des remplacements, choses comme ça. Mais sinon, moi, le télétravail, ça me dérangeait absolument pas.
Marine?
Oui. Moi, j'étais toute l'année en télétravail. J'ai repris quand? En mai, du coup.
Ok.
Enfin, les cours, parce que moi, j'étais en télétravail cours.
Et puisque c'est toi qui as le micro, Marine, tu vas pas le lâcher, ce micro. Tu veux nous parler de quoi aujourd'hui? On a parlé risotto, mais je suis pas sûre que ça soit ça l'info.
Si, si.
C'est ça?
J'allais parler en italien, du coup, t'avais dit risotto.
C'est risotto. Ouais, c'est,
allez, bah vas-y, fais
non,
en
non,
italien.
Non, personne va comprendre.
Maqué.
Non, si. Il y a une étude qui a été menée, et en fait, le risotto serait le plat le mieux pour séduire, etc.
Genre le plat le plus sexy?
Ouais, le plus aphrodisiaque.
Ah, ça dépend à quoi tu le fais, ton risotto.
Oui, c'est sûr. Oui, selon ce que tu mets dedans.
Et du gingembre?
Bah, en fait, c'est,
ouais, si tu mets
c'est
du gingembre, c'est sûr.
C'est
que...
une journaliste qui s'appelle Alizé Vincent qui a eu cette intuition pour le risotto et elle a fait un sondage sur Instagram et plus de 10 000 personnes ont répondu que c'était le risotto.
D'accord, mais c'est genre leur plat qu'ils utilisent pour séduire quelqu'un,
c'est
en fait.
C'est ça, ouais. Exactement.
Donc c'est peut-être pas forcément la notion vraiment aphrodisiaque.
Mais non, mais du coup, après, ils disent que c'est quand même aphrodisiaque.
Ah ouais. C'est un effet, quoi.
Ouais.
Le risotto a un effet.
Ça plombe quand même le risotto, non?
Sensuel. Non, mais peut-être parce que c'est un plat qui met du temps à être préparé, qu'il faut préparer doucement, il faut prendre son temps, donc peut-être, je sais pas, inconsciemment tu te dis que ce qui va se passer après, c'est pas comme le mec qui te fait le steak frites comme ça, bim bim. Et,
c'est les mecs qui t'ont fait des steak frites pour la première fois?
Non.
Si, je suis sûr que oui.
Non, parce que les mecs ils cuisinent pas.
Oh non, ça y est.
Voilà. Flo cuisine très bien.
Super, ça part de patriarcat et d'un côté, ça dit tous
Flo
les hommes, ça cuisine pas.
Très bien.
Ah bravo.
Non, mais jamais de steak frites. Enfin, d'accord. Pas que je me souvienne, quoi. Je me rappelle.
Et genre
pas
le meilleur truc qu'on t'ait fait dans un repas romantique.
J'en sais rien.
Une quiche à l'oreille.
Je sais pas, je me rappelle pas, je fais pas attention. Tu sais, j'ai pas un carnet avec. Alors lui, il m'a fait ça.
Non, mais ça a pu te marquer.
Me marquer. Non, moi c'est plus, c'est pas forcément le plat le soir, mais c'est genre le mec qui s'était fait chier à préparer tout le petit déj et tout machin pendant que je dormais encore, et après il m'a réveillé gentiment et puis tout était déjà prêt.
Et il a foutu tout par terre dans les draps là.
Et toutes les miettes.
Allez, bravo, les miettes.
Ouais, ouais, et après ça gratte quand ça dort.
Et toi Nico, quel est le plus joli plat que t'aies eu ou que tu aies fait?
Tu vois, c'est dur de répondre à cette question.
Un Big Mac,
un rougail saucisse.
Ah bah ouais.
Bah attends, rougail saucisse, ça peut être classe.
Très,
hein, je suis désolé.
C'est très classe, carrément.
Non, des brochettes de crevettes grillées flambées.
Oui.
Ça, c'était pas mal. Mais surtout que j'étais pas habitué aux crevettes à l'époque.
Mais ça avait flambé la maison, ça c'est un peu con quand même.
Mais et sinon tiramisu.
Tiramisu.
Un beau tiramisu bien.
Marine ?
Oui.
Quel est toi ton petit plat sympa que t'aimes bien recevoir, avoir ?
Alors, je ne cuisine pas donc.
Non, mais t'as déjà reçu des plats cool ?
C'est dur hein. Bah oui, c'est dur. C'est dur comme question.
Mousse au chocolat peut-être ?
Peut-être dès que c'est comestible, ça passe. Ça va, elle est pas difficile ça. Ça se mange, vas-y, c'est bon.
Tiens, un Big Mac, elle prend.
On a eu un message de Rémi qui nous dit mon père parle trop librement de sexualité, que faire ? Vous envoyez vos messages d'ailleurs vous sur Instagram, n'hésitez pas.
Non mais de ouais, mais voilà, mais c'est pas précis.
De sexualité, du style, je sais pas, oui, ouais, il doit parler de cul, le daron, quoi.
Non, si, j'avoue. Ça gêne, quoi, tu vois. Ouais, ça gêne. Moi, je sais que le mien était un peu comme ça quand j'étais ado. Ouais. Quand des fois, les repas de famille et tout, et tu sais, t'as tous les adultes, ils sont en train de là faire des blagues de cul et tout, et toi, t'es là. Ok, les gars, c'est un peu gênant. Ouais, ça la fout mal. Tu vois, ou que des fois, il essaye de dragouiller tes copines quand
t'es
adulte. C'est ouais. Chaud, tu vois. Ouais. Moi, je sais que le père d'un de mes meilleurs amis, ouais, il m'avait dragouillé. Ah, mais je m'étais sentie trop, trop mal, quoi. On était allé voir une pièce de théâtre ensemble pendant le Festival d'Avignon. Et le mec, il avait tenté. J'étais là.
Mais du style, quoi. Comment il a tenté?
Bah, il était, ouais, il faisait son charmeur et tout, tu vois. Mais du coup, c'est quelqu'un que j'ai, même si je le connais depuis un milliard d'années et que.
Tu revois plus.
Non, si, que j'aime énormément. Mais le papa en question, je l'ai toujours vouvoyé, tu vois, pour bien mettre de la distance.
Ça se trouve, ça l'excite.
Oui. C'est ça, en fait, c'est ça le problème. Moi, oui. Arrête, tutoie-le, tu vois.
Tutoie, c'est ça. Non,
ouais, je t'arrête, on s'en va.
Qu'est-ce qu'on lui recommande alors à ce Rémi ?
Bah, peut-être d'en parler avec son père, tout simplement.
Oui, et s'il est gêné.
Mais déjà, s'il a du mal à entendre son père parler sexualité,
mais
ça.
Mais non,
ça,
mais
ça,
voilà, ça. Tu dis stop, papa.
Ouais, ça me gêne, quoi.
Ta vie sexuelle, ça te regarde toi. La mienne, ça me regarde moi. C'est bon.
J'ai une copine qui. Son père, il l'a divorcé un petit peu sur le tard. Et quand il l'a divorcé, il a rencontré plusieurs personnes. Il commençait à lui raconter toutes ses conquêtes, du style je viendrai à l'hôtel, mais je prendrai un lit double, parce que tu vois, si je rencontre quelqu'un là ce soir et tout. Et la fille au bout d'un moment, elle lui fait hop, papa, n'oublie pas que je suis ta fille.
Ouais, il faut mettre des limites.
J'ai des amis pareil. La mère vient de divorcer et tous les jours elle raconte à son fils qu'elle a rencontré sur Tinder, ce qu'il lui a fait et tout, alors que elle vit encore avec le père quand même dans la maison familiale et tout.
Ah, c'est pas top.
Non, ouais, c'est ouais. Chaud. Ouais.
Donc lui, il est là. Elle dit oui, mais je sais pas qui en parler. Donc
Pas des copines pour ça.
Ou au pire un psy, quoi, tu vois. Mais,
oui.
Mais ça me fait penser à la série Sex Education avec Gillian Anderson qui arrête pas de parler de cul avec son fils. Le fiston, il est un peu gêné. Donc,
ouais, parce que c'est son métier en même temps.
Ouais, elle est sexologue. Ok, donc Rémi, il faut qu'il en parle à son papa, voilà, tranquillement. Et puis voilà. Et le père, il y a pas de raison qu'il comprenne pas.
Sinon, il se bouche les oreilles et il fait la 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 la.
C'est ça. Comme quand on était petit.
Sexe, amour et amitié. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ?
Est-ce que vous savez ce que ça veut dire thorarche ? Thorarche, ça s'écrit T-H-O-R-A-R-C-H.
C'est le thorax mal prononcé ?
C'est pas le thorax, non.
C'est un mot qu'on doit traduire ou c'est un mot français ?
C'est un mot français, c'est dans le dictionnaire réellement. Ouais. Thorarche.
Cherche, Nico, cherche.
C'est quelqu'un qui aime bien les taureaux ?
Non. Avec T-H-O.
Quelqu'un qui aime bien Thor.
C'est en lien avec la sexualité, vous l'imaginez. Hein,
quelqu'un qui aime bien les marteaux.
C'est la première quelque chose.
La première fois qu'on utilise un marteau ?
Non. Sexuel, on a dit.
Thorarche.
C'est, je sais pas, c'est un nom d'organe, un nom de...
Non.
C'est... Un nom de dos.
C'est la première fois que...
Bah,
que t'as embrassé.
Ouais.
Ou que t'as
une relation avec une nouvelle partenaire à chaque fois.
C'est la première fois que tu as une relation.
Tout court. Mais à un moment donné, tu perds ta virginité.
Alors, c'est un petit peu ça.
Ah, c'est les hommes, par exemple, qui aiment bien faire perdre leur virginité.
Non. Non, c'est la première fois qu'on fait l'amour dans un couple.
Non.
Ah. La première fois qu'on fait l'amour à chaque histoire.
Non.
La première fois qu'on fait l'amour juste prix.
Je sais pas. Pense plus individuel.
Ah, la première fois qu'on se masturbe.
Mais ouais, mais c'est jamais la première fois du coup après.
Ben non. Enfin, non, c'est ça, une fois quoi. Ouais, c'est la première. La première, en réalité, c'est la première éjaculation masculine. Ah. Et donc, en général, elle se fait lors d'une masturbation. Donc voilà, la première éjaculation masculine s'appelle la thorarche ou le thorarche.
Oui, mais la première de toute ta vie.
Ouais, la première de toute ta vie.
Donc en fait, c'est une info.
Mais ouais, mais ça peut t'arriver quand t'es petit sans faire exprès, parce que des fois, vous avez des éjaculations nocturnes qui sont pas contrôlées.
Quand t'es adolescent plutôt.
Oui.
En puberté, ouais. Et ben, ce truc-là s'appelle la thorarche.
D'accord, ouais, d'accord. Mais comment tu sais que c'est la première? Oui, c'est parce que le matin, tu te réveilles, t'es là. Ah,
clairement, tous les mecs, à mon avis, se souviennent de la première fois.
À cette occasion, on porte aussi une kipparche ou pas?
Chercher la vanne depuis tout à l'heure, ouais. Je le voyais regarder dans le plafond. J'ai dit, à quoi il pense, Nico? À sa thorarche? Non, pas
c'est
du tout.
Ça.
Pensez à de la vanne. Non, mais je me trompe, Nico, où on se souvient tous plus ou moins de ce moment. C'est quand même un truc marquant.
Allez,
quoi,
raconte-nous,
dans
Nicolas.
C'est marquant, oui.
Ta thorarche.
Non, je veux pas me. Non, mais c'est oui, effectivement, c'est marquant.
Ouais. Un truc marquant pour les mecs, parce que c'est un truc que tu n'as jamais senti dans ton
corps.
C'est
une nouvelle étape.
Pour les draps aussi.
Puis c'est une nouvelle étape, quoi.
Parce que c'est un orgasme. En fait, c'est la première fois que tu as un orgasme sexuel.
C'est ça.
Mais non, parce que tu peux avoir un orgasme.
Sans éjaculation.
Ouais, mais.
Mais si.
Pour quelqu'un de non expérimenté,
Non, mais je parle pas forcément en éjaculant ou. Mais si t'as une relation homosexuelle, par exemple.
Oui, non, mais d'accord, mais là, on parle de la première éjaculation masculine. Donc, c'est rare que la première éjaculation masculine.
Oui, c'est vrai.
Tu vois ce que
après,
je veux dire?
Après. Ouais. C'est vrai.
On a pris un mot aujourd'hui, c'est plutôt pas mal.
Thorarche.
Thorarche. Vous saurez vous en souvenir, vous saurez le caler dans un roman.
Moi, je suis thorarche.
Moi, question à 1 million, à qui veut gagner des millions?
Peut-être que le Rémi dont on parlait tout à l'heure précédemment, il peut en parler à son père. Ouais, tu sais ce que c'est pas mal, le thorarche. Et l'attaque, tu relances la machine. Ah, c'est parti, tu remets une pièce. Bon, les amis, on va se quitter là. C'est déjà la fin de ce podcast et pourquoi pas. Merci, Angèle.
Merci, Florent.
On est toujours dans ce gîte. On va en profiter cet après-midi à Limon. Merci, Marine.
Merci, Florent.
Merci, Nico.
Merci, Florent.
Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve sur les réseaux sociaux et pourquoi pas. Et puis, on attend toujours, évidemment, vos messages. N'hésitez pas. Les audios sont acceptés via Instagram, notamment, ou pourquoi pas Facebook ou Twitter. Allez, passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut.
Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com.